une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, c'est la Black Week et le Black Friday chez Case Me. Ils ont des promotions complètement insane. Ils ont le Black. Durant la Black Week, c'est 20% de rabais plus des arbres de plantés à chaque case vendue. Le Black Friday, 25% plus des arbres plantés. Le week-end, le Cyber Monday, 20% des arbres. Allez voir ça. Ils ont plus ils ont des centaines d'étuis de cellulaires. Ils ont des cases pour les AirPods. Ils ont des hard shell pour vos ordis. Ils ont tout le stock, plein de rabais, des designs incroyables. On est vraiment content de travailler encore à Case Me. Ils sont incroyables. Allez voir ça pour vraiment encourager-les. C'est une compagnie d'ici en Beauce. C'est des amis en plus. Fait que allez voir ça. Puis on a un code promo en plus. Je sais pas s'il s'applique à toutes les promos déjà, mais c'est SF15 pour 15% de rabais sur tous les étuis, tous les cases, tous les etc. de Case Me. Fait que allez voir ça cette semaine. Big D.
Cette semaine, on reçoit Kim Clavel sur le podcast que vous connaissez sans doute. On l'a vu à la télévision dans Big Brother et c'est une des meilleures boxeuses dans sa catégorie au monde. Et on a parlé de ce monde-là, de la boxe, qui est un monde que moi, personnellement, je connais peu. Mm-hmm. Alors, j'ai vraiment beaucoup appris à savoir c'est quoi ce sport-là puis c'est quoi la beauté finalement de ce sport-là. J'ai vraiment mieux compris en fait la beauté de ce sport-là. Puis son régime d'entraînement, aussi, on a vraiment parlé en détail de c'est quoi sa routine, c'est quoi sa vie finalement Kim Clavel pour se préparer pour des combats aussi importants. Elle a un combat qui s'en vient très bientôt, un combat de championnat du monde justement. Alors peut-être dans quelques semaines, elle aura la ceinture de championne du monde. Alors c'est très excitant. J'espère que vous allez apprécier la conversation. Kim, c'est une personne avec une joie de vivre et une énergie contagieuse. C'était vraiment super le fun. Elle nous donnait des super belles réponses. Alors, grand plaisir de l'avoir reçue.
Tout le temps du fun avec les athlètes.
Ouais.
Ouais, on se reconnaît beaucoup. Fait que on espère que vous allez aimer la conversation. Juste avant, on va remercier nos commanditaires.
Oh yeah!
T'es parti. Yes, merci d'être là.
Hey, ça me fait plaisir. Je suis contente aussi.
Est-ce que t'es, dans le fond, aujourd'hui, t'es entre deux entraînements, là, si je comprends bien.
Oui, mettons que vous m'avez rushé un petit peu.
Ouais.
À matin, j'avais un entraînement à 9h. Je finis comme à 10h, 10h15. Là, je vais être ici pour 10h45. Fait que c'était comme, après, ma coach m'a amené mon lunch. Elle avait une journée pédagogique. Elle est enseignante au primaire. Ouais, okay. Là, un yogourt, là, je mangeais ça dans l'auto, je me suis changé, je me suis fait une couette, puis là, je suis avec vous.
Ben, hey, merci.
Après,
merci pour ça.
Après t'as un autre entraînement, dans le fond.
Oui, j'ai un entraînement à 2h, okay. À 14h, puis à soir, c'est parce que j'ai un souper, un banquet, c'est le Panthéon. En tout cas, Luciane Bouté va être inauguré. Ah ouais. Puis on est invité à sa table ce okay. soir. Fait que c'est vraiment une journée.
Une
grosse journée, ouais.
Mais j'imagine que tes journées ressemblent pas mal. En termes d'entraînement, ça ressemble à ça tout le temps, ce temps-ci. Là.
Oui, vraiment. T'sais, surtout que là, je vais boxer le 17 décembre. Je suis en plein centre de mon camp d'entraînement. Fait que c'est deux entraînements par jour, du lundi au samedi. Puis c'est ma sieste est importante parce que moi, si je fais pas de sieste, je suis bougonne.
Ouais.
Ouais.
La sieste, je me rappelle, tu sais, comme on parlait un peu avant, là, mais, tu sais, on a fait de la natation longtemps, puis la sieste entre dans les doubles, là, quand t'es en camp d'entraînement, ça n'a pas de bon sens.
On dirait que ta vie tourne autour de cette sieste-là. Ouais. Tu planifies toutes tes affaires, puis tu sais, j'aurais pas le temps de faire ma sieste. Ouais. Tous tes choix sont en fonction de ta sieste.
Ouais. Es-tu capable, toi, de juste faire, parce que moi, je sais qu'il nous disait, faites 1h30 max, tu sais, mets ton cadran parce que sinon tu fly puis tu te réveilles, t'es encore pire qu'avant de te coucher. Toi, t'es-tu capable de faire ça? Tu fais-tu 1h30? C'est quoi ton rythme?
J'essaie de faire 1h30, 2h maximum.
Okay.
Fait que je mets comme un maximum mon cadran, mettons, puis si je me réveille avant, je me réveille avant, mais c'est rare. T'sais, souvent, là, je dors 2h puis je pourrais dormir encore plus. Je pense que je suis quelqu'un que j'ai besoin des 12-13 heures par jour. Je dors, là.
Fait que tu dors, mettons, un 10 heures aussi la nuit, là.
Ah ouais, puis plus j'approche de mon combat, plus je dors. Je pense que la semaine avant, je peux dormir 16 heures par jour.
Ah ouais, hein?
Je dors sans arrêt.
c'était qui le gars, Alex Harvey, là, qui disait qu'il dormait comme 15 heures, 15 heures par jour tout le temps? C'est quand même... Tu dors 15 heures, c'est que tu vis 9 heures, man. Ouais,
c'est ça, t'as pas le temps pour vivre, là.
Dans ces 9 heures-là, tu t'entraînes 6 heures.
Ouais.
Ouais, c'est ça. La boxe, ça m'a toujours fasciné parce que il y a vraiment des cycles.
Ouais.
Puis il faut que j'imagine que tu sois capable de trouver une balance à travers tous ces cycles-là. Parce que là, en ce moment, j'imagine que tout ce que tu fais, c'est vraiment ultra calculé. Là. Comme on vient de parler au niveau de ton horaire, mais j'imagine que la nutrition, j'imagine que le sommeil, les entraînements précis, j'imagine que là, en ce moment, tu n'as aucune marge de manœuvre sur rien de tout ça. Là,
non, vraiment. Tu sais, puis autant que la boxe, c'est un sport individuel dans le ring. Oui, tu es toute seule à performer, mais j'ai tellement une équipe autour de moi. Tu sais, comme tu dis, justement, une nutritionniste, j'ai mon préparateur physique, j'ai ma coach, j'ai Stéphane Larouche aussi qui travaille en tant que coach aussi, tu sais, psychologue sportif. Il y a tellement de trucs autour qui t'emmènent à performer le jour J.
Ouais.
Tu sais, c'est vraiment, on va travailler, tu sais, des fois, c'est plus musculation, plus endurance musculaire, plus de charge, plus de rondes à la boxe. Puis tranquillement, quand on va approcher du combat, ça diminue. Puis là, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie. Puis pour avoir le pic, le jour J,
bon,
c'est vraiment des cycles, comme tu dis.
Ouais, c'est ça. Puis un camp d'entraînement, quand tu sais, mettons, que tu as un combat qui arrive à telle date, le camp d'entraînement est combien de semaines?
L'idéal, c'est un 8 semaines.
8 semaines?
Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu as le temps d'aller faire tout ce que. Tu sais, d'avoir une bonne préparation. Puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui, entre mes combats, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de poids. Tu sais, il y a beaucoup de boxeurs, des fois, ils vont se laisser aller entre deux combats. Tu sais, ils vont faire la fête, ils vont manger beaucoup. Mais j'essaie d'avoir un bon mode de vie à l'année longue. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut atteindre les plus hauts sommets. Parce que, tu sais, si tu t'entraînes juste quand tu as un combat, je trouve que c'est une mentalité qui n'est pas la mienne.
Tout. Ah, excuse-moi.
Non, j'ai demandé, ton dernier combat, ça remonte à quand, toi?
C'est le 28 août au stade IGA à Montréal.
Puis en moyenne, dans le fond, une boxeuse comme toi, ça fait combien de combats dans une année?
Environ 4 combats par année. Là, ça avait été difficile à cause de la pandémie.
Ouais.
Mais quand même, j'avais eu la chance d'aller boxer à Las Vegas, au Mexique. Mon promoteur, Yvon Michel, il a quand même bien arrangé ma carrière. Mais environ un 4-5 combats par année, je dirais.
Ouais. OK. Puis plus que ça, ça serait trop.
Ça serait trop, parce que, tu sais, souvent, ça va être en début de carrière que tu vas faire plus de combats. Je pense qu'à un moment donné, j'ai déjà fait 6-7 combats en une année. Mais, tu sais, souvent, c'est des 4 rounds. Là, je fais des 10 rounds, tu sais, c'est pas pareil.
Ouais.
Tandis que quand tu boxes un 4 rounds, tu peux reboxer le mois d'après, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand tu fais un 10 rounds, c'est physiquement très difficile. Ça va dépendre aussi de tes combats. Tu sais, si tu as eu un combat qui est très, très difficile, qui est tough, tu as besoin de la récupération en bas, avant de recommencer un camp d'entraînement. Fait que ça va vraiment dépendre, c'est vraiment du cas par cas.
Puis entre ces camps d'entraînement-là, tu dis que tu essaies de garder un régime de vie sain. C'est quoi tu fais au niveau de l'entraînement pendant ces périodes-là? Est-ce que tu fais plus du cross-training ou bien tu restes vraiment focus boxe?
Je vais faire beaucoup de général. Tu sais, souvent, mettons, la boxe, quand on est en camp d'entraînement, on en fait tellement qu'après, on a besoin vraiment d'une transition qu'on va faire peut-être une journée de boxe par semaine ou deux journées de boxe tellement que ça te manque. Tu sais, quand tu vas recommencer ton camp d'entraînement, t'as faim, t'as hâte de reprendre, de frapper dans un sac. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme une drogue, là. Mais, fait qu'on diminue beaucoup au niveau de la boxe. Puis après ça, on va faire plus de la préparation physique, tu sais, de la course, de la musculation, aller travailler des choses qu'on n'a pas tout le temps, tu sais, des petits détails.
Ouais.
Vraiment garder une forme générale.
Endurance de base.
D'endurance de base, exactement. Puis quand on va recommencer en camp d'entraînement, là, on va réinsérer la boxe graduellement. Puis t'as hâte d'être dans le gym de boxe. Là, quand ça fait 2-3 semaines que t'as pas frappé dans un sac, là, t'as faim.
Le sparring, fait que genre, ça, c'est le que tu fais des combats en entraînement. Ça représente quel pourcentage de tes trainings pendant un camp d'entraînement, mettons?
Pendant un camp d'entraînement, je vais essayer de faire 2 sparring par semaine. Puis on va y aller graduellement. Exemple que là, je m'entraîne pour un 10 rounds.
Ouais.
Mais tu sais, les premières semaines, on va faire juste 2 fois 5 rounds. Ensuite, 2 fois 6, 2 fois 8. Puis on va faire un 10 rounds peut-être juste une fois dans un camp d'entraînement pour aller voir. OK, c'est ça, un 10 rounds, je suis prête, l'énergie, je suis bien, mais t'as pas besoin de faire... Tu sais, c'est une vieille mentalité de dire que ça prend des sparring difficiles, faut que tu fasses juste des 10 rounds, ça, c'est pas vrai, tu sais. Pourquoi aller se maganer? Ça reste que la boxe, c'est des coups de poing à la tête.
Ouais.
Fait que, tu sais, on veut être vraiment frais et dispo rendu à notre combat. Fait qu'on va faire des combats, des sparring pas toujours difficiles. Des fois, on a besoin d'un combat avec une fille qui est plus novice, exemple, mais que moi, je vais pratiquer juste ma défensive, qu'elle, elle peut me frapper comme elle veut, mais moi, je pratique juste ma défensive, bloquer les coups de poing, passer en dessous, que ça soit facile, parce qu'on apprend beaucoup dans la facilité. T'as le temps de voir ce qui se passe, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de bouger, mais t'as besoin aussi des combats, des sparring difficiles, parce que c'est sûr que le combat va être difficile, mais quand tu as réussi à le faire tranquillement avec une fille qui a moins d'expérience, ça devient acquis. Puis là, quand tu deviens avec une fille qui est meilleure, c'est acquis, puis là, tu performes.
Là, toi qui es une des meilleures au monde, dans le fond, quand tu fais des sparring difficiles, contre qui tu te bats?
Là, on va faire venir des filles du Mexique qui vont venir ici au Québec pour m'aider. Puis j'ai la chance, je m'entraîne au club de boxe Montréal, au Centre Claude-Robillard, puis il y a des filles qui sont championnes canadiennes au niveau amateur.
Okay.
C'est des filles qui me donnent vraiment un bon challenge. Puis je suis tout le temps la plus petite. Je suis pas très pesante. Moi, je suis une mi-mouche, même pas une mouche au complet. Fait que, tu sais, les filles, souvent, sont plus pesantes, puis ils vont servir de leur physique pour me faire travailler. Fait que même si peut-être techniquement, des fois, sont moins, ils ont moins d'expérience, mais physiquement, ça va compenser. Là,
quand tu dis championne du monde amateur, c'est quoi les différences entre la boxe amateur et la boxe professionnelle? Puis est-ce que ce qu'on... Parce que la boxe professionnelle, on la voit, là, tu sais. Puis est-ce que la boxe amateur, c'est ce qu'on voit aux Olympiques, par exemple?
Oui, exactement. Okay. C'est tellement un monde différent.
Ouais.
J'ai boxé, ça fait 15 ans que je boxe maintenant. Puis j'ai été 7 ans sur l'équipe nationale avant de passer professionnelle. Puis, tu sais, la boxe amateur, c'est... On n'en entend pas tant parler. Tu sais, même, c'est pas médiatisé tant que ça, mais c'est tellement beau, c'est technique.
Ouais.
La différence, c'est qu'on a... chez les femmes, on a un casque. Nos gants, c'est des 10-11. Chez les professionnels, c'est des 8-11, des plus petits gants, puis on n'a pas de casque.
Okay.
Puis dans la boxe amateur, on va faire seulement 3 rounds de 3 minutes. C'est comme plus un sprint, on peut dire.
Ouais.
C'est plus de la touche.
C'est comme un peu de l'escrime. Là.
Un peu plus comme de l'escrime. Tu sais, t'as moins de chances de te blesser, on peut dire.
Il y a des knock-outs, j'imagine,
oui,
quand même.
Il y en a
quand
même,
pas mal moins.
Mais vraiment, c'est beaucoup plus rare parce que c'est des tournois.
Ouais.
Tu sais, tu vas arriver dans un tournoi, c'est un tirage au sort, il va y avoir 25 pays qui participent à ce tournoi-là. Oups, tu vas commencer, tu boxes contre les États-Unis. Si tu gagnes ensuite, tu vas passer contre le Nicaragua. Tu sais, c'est comme, tu sais pas contre qui tu vas boxer. Fait que c'est toujours une surprise. T'es toujours prêt. Tu peux faire 3-4 combats dans une semaine, mais puis tu dois faire le poids aussi à chaque matin. Tu sais, c'est comme nous en boxe professionnelle. On a, exactement, je boxe à 108 livres. J'ai une pesée 24 heures avant mon combat. Je mange, je me réhydrate, puis je vais boxer. Mais tandis qu'amateur, exemple, moi, je boxais à 106 livres, mais je devais refaire 106 livres 3-4 fois dans la même semaine.
Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de le tenir.
Exact.
Ça veut dire que c'est un poids qui est, entre guillemets, réel.
Qui est
si
plus réel. Puis, tu sais, quand même, tu te réhydrates pas autant, tu vas pas manger autant. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est deux mondes complètement différents, mais c'est deux mondes assez difficiles.
Puis au moment où tu décides de switcher, j'imagine que... Comme c'est différent, ta préparation est différente.
Ouais.
T'as une adaptation
à avoir. La défensive va être très, très importante. Le style professionnel, le style amateur est vraiment différent. Même des fois, je mets les gants, je fais du sparring avec des filles qui ont un style typique amateur, puis ça me donne du trouble parce que c'est vraiment un sprint. In and out, je te touche, je m'en vais. Tandis que professionnel, t'es plus groundé. Tes coups de poing, c'est des coups de poing pour faire mal. C'est pesant, c'est de la qualité de coups de poing. Tandis qu'en boxe amateur, tu vas moins t'attarder à la qualité de coups de poing. Ça va plus aller toucher vite, faire des points, dominer le round, te déplacer. C'est vraiment différent de la boxe professionnelle.
Puis toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce switch-là?
J'ai toujours voulu boxer professionnel. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment les bonnes années à Luciane Bouté.
Ouais.
Puis j'allais au Centre Bell, tu sais, le premier combat, j'avais vu, puis ça m'avait comme tellement donné des frissons. Je disais, imagine un jour, je pourrais peut-être boxer au Centre Bell. Mais je me disais, c'était impossible, je voyais pas de femmes tant que ça. Tu sais, c'était pas médiatisé, là, 15 ans. J'en voyais pas boxer au Centre Bell. Tu sais, je me disais, je rêve, mais c'est comme... C'est pas possible. Mais aujourd'hui, le 17 décembre, je boxe au Centre Bell. Tu sais, ça va devenir une réalité. Mais puis j'avais un style qui ressemblait plus aux professionnels qu'aux amateurs. Puis ça, les entraîneurs me le disaient. Fait que l'adaptation, la transition, pour moi, c'est fait vraiment rapidement. Puis j'ai eu la chance de m'accomplir vraiment chez les amateurs. de faire tous les tournois possibles. Les femmes ont été acceptées juste en 2012 aux Jeux olympiques.
Ah ouais,
puis juste 3 catégories de poids sur 10, dont la mienne n'était pas là.
Okay.
Fait que j'ai décidé de ne pas perdre mon temps, puis d'aller tout de suite chez les professionnels. J'avais tout fait les tournois que je pouvais, puis j'avais déjà un bon bagage. Puis j'ai eu la chance d'avoir des promoteurs qui étaient intéressés à me signer. Parce que de la boxe professionnelle sans promoteur, c'est vraiment difficile.
Ouais.
Est-ce que la plupart des meilleurs amateurs font le switch vers professionnel ou ça n'a pas nécessairement rapport?
Pas nécessairement. Okay. Comme les Cubains n'ont pas le droit de boxer professionnel.
OK.
T'sais, eux, c'est les champions, c'est les meilleurs boxeurs au monde, c'est les plus médaillés aux Jeux olympiques, dans les tournois internationaux.
Ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit. Le pays n'accepte pas qu'ils gagnent leur vie en boxant.
Ah ouais.
T'sais, fait que c'est pour ça qu'on voit souvent les Cubains qui vont déménager ou se sauver aux États-Unis pour pouvoir continuer une carrière professionnelle.
C'est fou. Ah
ouais, hein? Ouais, souvent, les femmes aussi, t'sais, avant, c'était moins populaire, la boxe professionnelle chez les femmes. Là, ça commence. Fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident d'aller boxer professionnel. Mais il y en a beaucoup là, qui vont faire une super belle carrière, qui vont aller aux Jeux olympiques, qui vont terminer en boxe amateur. Il y en a que la boxe professionnelle, ça les effraie un peu ou ça les intéresse moins. Puis c'est bien correct. T'sais, c'est vraiment... Il y a un gros côté business dans la boxe professionnelle qu'il n'y a pas en boxe amateur.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui explique l'histoire quand même prestigieuse du Québec dans la boxe professionnelle? T'sais, on a eu des bons, des excellents boxeurs. Tu parles de Lucien Boutet. Moi, je me rappelle précisément sa première défaite, en fait. Là. Je me rappelle,
Carl Froch.
Ouais, je me rappelle le feeling que j'avais dans le ventre quand il a commencé à montrer qu'il avait ses jambes lâchaient, puis qu'il a commencé à être dans le corps. Je me rappelle le feeling que j'avais de vouloir mourir.
Mal, là,
de vouloir mourir. Puis je me rappelle exactement j'étais où, en fait. Puis qu'est-ce qui explique pourquoi au Québec on a un bel historique comme ça de boxeur?
Ben, on a eu, tu sais, les anciens, je sais qu'il y a eu les Hilton,
ouais,
dans le temps qui étaient super populaires, Lucien Boutet, ouais, Eric Lucas, Stéphane Ouellette. Mm-hmm. Puis on dirait qu'on a eu un gros high, je trouve, mm-hmm, de la boxe professionnelle, qu'on vendait des billets. Je pense que c'est un peu dû au charme, au charisme, la gentillesse de Lucien Boutet, ouais, d'Eric Lucas. Puis ensuite, on dirait qu'on a eu un gros crash. Comme
depuis une couple d'années,
on a de la misère à vendre des billets. On a de la misère à s'identifier à un champion au Québec. T'sais, on a eu Jean Pascal aussi. Puis, tu sais, Jean, peu importe ce qui est arrivé dernièrement et tout, il en a fait pour la boxe. Puis, c'est un vrai champion. Il n'a jamais dit non à aucun défi. Puis, il y a vraiment un cœur de guerrier. Mais je pense qu'on a des entraîneurs compétents, justement comme Stéphane Larouche, qui est très, très, très compétent, que c'est un artiste de la boxe. On a Marc Ramsey aussi, qui est un très bon coach. Puis on dirait qu'à part eux, ils commencent à avoir là de la relève, des nouveaux entraîneurs qui sont motivés, qui veulent apprendre. Fait que je pense qu'on a une nouvelle relève de boxeurs qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais le Québec, je pense qu'aussi, c'est une question de promoteur. Tu sais, dans le temps, avec le promoteur qui est décédé, voyons comment il s'appelait... Il disait « je promote », là. Il disait
« je vais te promoter ça ». Mais ça sonne comme un Québécois. Là.
Ouais, il disait « je vais te promoter ça ». Il est décédé il y a quelques mois. Puis lui, il faisait beaucoup des combats locaux. Tu sais, un Québécois contre un autre Québécois, Hilton Ouellet. Je pense que ça, les gens se sont vraiment appropriés la boxe de cette façon-là. Parce que maintenant, les promoteurs vont beaucoup signer, exemple, un Russe.
Ouais.
Quelqu'un qui vient d'ailleurs, on dirait que les Québécois ont de la misère à s'identifier à ces athlètes-là.
Oui. Ah, OK, ça fait du sens.
Ouais.
Puis est-ce que, toi, en grandissant, ça t'a toujours intéressé, la boxe? T'as toujours regardé ça? T'as tout le temps...
Oui, j'ai tout le temps regardé ça. Ça me passionne. C'est quelque chose que je peux pas expliquer. C'est bizarre, aimer la boxe, tu sais. Mais c'est dans mes tripes. Je le ressens, puis je peux pas le dire en mots pourquoi. Mais ça me fait du bien. Puis quand je suis dans mes entraînements, je suis tellement balancée dans ma vie aussi.
Mm-hmm.
Puis quand je suis entre deux combats, je me cherche, on dirait que je deviens tout débalancé. C'est comme si l'entraînement m'apporte genre du bien-être dans ma vie. Je me sens bien dans ma tête. Fait que mon après-carrière me fait vraiment peur, tu sais, de savoir je vais être qui, moi, après avoir été cet athlète-là. Comment que je vais être fière de moi? Ça, j'essaie de pas trop y penser.
Ouais, c'est ça, mais
ça s'en vient.
C'est là quand même.
C'est quand même là. Je trouve que c'est le côté stressant.
Puis c'est quelque chose que tu envisages, que tu entrevois dans quel genre de futur, ça, mettons, cette retraite-là? Tu le sais-tu ou...
Ben, là, j'essaie de vivre vraiment mes moments présents parce que c'est court, une carrière de boxe, d'athlète
carrière
en général.
Carrière d'athlète,
c'est... Puis tu sais, quand ça passe... Je veux pas me dire j'aurais donc dû le vivre. Ouais. Tu sais, j'essaie de le vivre à 100%. C'est pour ça que je déménageais à Montréal. Tu sais, je viens de Joliette.
Ouais.
J'ai lâché l'hôpital. Je veux vivre mes affaires à 100%. J'habite dans mon petit 3,5. Tu sais, toutes mes amies sont toutes à Joliette. Mm-hmm. Je vois pas beaucoup ma famille. Je vois pas beaucoup mes amis. tu sais, j'ai pris beaucoup de décisions pour ma boxe.
Ouais.
Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, je regarde mes amis qui ont 30 ans. Tu sais, ils ont une maison, ils ont deux enfants.
On est tous dans le même bateau.
Ils ont un chien, ils ont une job très stable. Puis là, je suis comme, je suis en retard ou tu sais. Puis là, je me dis non. Dans le fond, je fais ce que j'aime. Puis
toutes ces affaires-là que tu viens d'énumérer, là, que ce soit maison, famille, enfants, chien, c'est toutes des affaires que tu peux avoir tout le temps dans ta vie,
c'est
là,
ça,
pour
exactement.
Le reste de ta vie, tandis qu'être une boxeuse parmi les meilleures au monde qui fait ça, seulement ça, puis qui s'atteint les plus hauts sommets de sa propre montagne, ben Chris, c'est ça, tu peux pas le faire à l'infini. Là,
non,
t'sais.
Ça, c'est sûr.
Puis quand ça va finir, ben probablement que tu vas faire comme moi, puis tu vas te mettre à courir des marathons parce que faut que tu fasses du sport tout le temps, chaque jour de ta vie.
Tu cherches une adrénaline, tu sais.
Ouais. Okay. Puis est-ce que la boxe peut aussi devenir un genre de... Parce qu'on s'entend que c'est quand même un sport qui est dangereux, là, parce que le but, c'est de knocker l'autre personne. Mais est-ce que la boxe peut aussi devenir un sport juste de fitness, puis de santé, juste de va t'entraîner, tu sais, puis que ce soit sur un punching bag ou en sparring, j'imagine qu'il y a des façons de faire pour qu'il y ait éliminé le danger. Là, t'sais,
ouais,
c'est
de façon
ça.
Récréative, puis c'est drôle parce que vu là. Deux semaines, ma mère s'est inscrite à la boxe.
Ah ouais?
Fait que c'est vraiment drôle, tu sais. Puis elle a dit, oh, ça me fait donc du bien. Puis elle frappe dans un sac. Puis elle fait, tu sais, quand le coach tient les mitaines, elle fait ça. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui fait ça de manière récréative. Puis c'est pas parce que c'est mon sport, mais j'ai l'impression que c'est un des sports les plus complets
tout
au monde, tu sais, autant abdominal, les jambes, c'est sollicité, les bras,
le cardio,
le psychologie. Tu sais, quand tu te ramasses dans un ring, même si c'est pas te battre avec quelqu'un, frapper dans des gants, frapper sur un sac, tu sais, ça défoule, c'est comme une thérapie. Mmh. Puis je trouve qu'on devrait mettre ça, moi, dans les écoles, tu sais, des punching bags, ton petit gars qui est trop tannant, au lieu de l'envoyer...
Dans le coin,
ben envoyez-le donc frapper dans un sac, ça fait du bien. Là,
dans le fond de la classe, t'as juste un punching bag et des gants, là, puis là, c'est comme, vas-y, puis là, t'entends juste...
Puis tu sais, je donnais des cours de boxe à un moment donné à l'école de secondaire Saint-Roch-la-Chigan, puis c'était vraiment tout un groupe à problèmes qui avait des problèmes de comportement. Pis je les avais en début d'année, puis j'avais un petit gars qui... Il avait les cheveux longs, il avait pas d'amis, il se camouflait derrière ses cheveux, il s'habillait en grand parce qu'il était pas fier de lui.
Mm-hmm.
Puis tranquillement, juste à boxer, puis je disais, je faisais beaucoup de positifs avec lui. Hey, mon Dieu, t'es donc bien rendu bon. Hey, mon Dieu, tu cognes donc bien fort. Tu sais, positif. Hey, tu t'améliores à chaque fois, je lui disais. Puis à la fin de l'année, c'est lui qui a gagné le certificat de la personne qui s'est le plus améliorée autant à l'école, dans toutes les sphères de sa vie. Il avait les cheveux, il s'est tout fait, il avait une belle petite coupe de cheveux, il avait perdu du poids, il avait des amis.
Il a pris confiance en lui, ça l'a fait sortir de sa coquille.
Vraiment, puis si la boxe, ça peut apporter ça à des jeunes, mais c'est mission accomplie. Là,
oui, vraiment.
C'est un beau sport pour s'accomplir.
Carnel, tu sais, pour des enfants aussi, j'imagine... trouble ou on dirait quelque chose, tu sais, ça permet de canaliser un peu cette énergie-là, mais
vraiment.
Dans quelque chose de positif. Là,
exact. Puis tu sais, dans je sais pas si vous avez déjà entré dans un gymnase de boxe une fois dans votre vie.
Ouais. Jamais, moi.
Non. Quand tu rentres dans un gym de boxe, à première vue, je trouve que c'est intimidant. Comme moi, c'est l'effet que ça m'avait fait quand j'avais 15 ans. T'entends le bruit des ballons, la cloche, tout ça, c'est vraiment intimidant.
Mm-hmm.
Puis oups, tu t'installes devant ton miroir, t'apprends la base de la boxe, tu regardes autour, puis personne se manque de respect.
Ouais.
On dirait qu'il y a comme une loi non écrite dans les gymnases d'arts martiaux que tout le monde est respectueux, tout le monde s'entraide, que tu sois un homme, une femme, un vieux, une jeune, n'importe qui. Un petit gars, nous, qui s'entraîne à notre gymnase de boxe, il est autiste. Puis tout le monde l'aide, tout le monde est fin avec tout le monde, peu importe de quelle religion tu es, ethnicité, mm-hmm. c'est ça qui est beau. Mm-hmm. Vraiment.
C'est vraiment hot. Tu sais, l'espèce de. La mentalité derrière les arts martiaux, je trouve, c'est. Ça, moi, j'ai fait un peu de karaté quand j'étais plus jeune, là, tu sais, mais juste l'idée que j'en vois, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'écoute la UFC, j'écoute la boxe, ça m'intéresse, ces choses-là. Puis la mentalité derrière, mettons le trash talk, j'haïs ça, là, ouais. Je trouve que c'est de la merde, je trouve que c'est un show, puis ça, c'est pas ça qui m'intéresse, mais la mentalité de comme du respect pour l'art martial ouais. comme tel, puis des grands maîtres, puis de tout ça, je trouve que c'est vraiment hot.
C'est beau.
Ça fait genre une unité, puis c'est ça. Les valeurs qui sont véhiculées par ça sont, au contraire, sont pas celles de genre combat puis violence.
Non,
c'est vraiment le contraire.
Pas.
Là,
ouais, vraiment pas. Puis tu sais, les athlètes en général qui performent vraiment dans les arts martiaux ou la boxe ou n'importe quoi, souvent, j'ai remarqué, c'est vraiment pas des gens qui sont agressifs dans la vie de tous les ouais. jours. Tu sais, ils sont même zen. Mm-hmm. Tu sais, mettons, tu regardes Georges St-Pierre, il ouais. s'entraînait à un moment donné à notre gymnase, puis travaillant. Je pense que c'est un des athlètes les plus travaillants. Il tourne aucun coin rond.
Ouais.
Mais dans la vie de tous les jours, il est-tu gentleman, ce gars-là? Comme il est mm-hmm. sympathique, Lucian, zéro agressivité, ce gars-là. Mm. Moi, dans la vie, j'ai travaillé avec des bébés naissants, des petits poupons à l'hôpital de Joliette, aux naissances, puis je pleure, puis je suis émotive. Tu sais, comme, ça n'a pas rapport. Tu n'as ouais. pas besoin d'être quelqu'un d'agressif puis de frustré de la vie pour pouvoir performer dans la boxe. C'est vraiment... Je trouve tellement que c'est ça la beauté. C'est un sport, c'est un art, c'est un respect mutuel entre les deux athlètes. Puis oui, ça reste que c'est... Il y a des conséquences comme dans tous les sports. Tu sais, que tu joues au football, ouais, il y a ouais. des risques de commotion au hockey. Tu sais, les gars, il arrive des accidents. Formule 1, ton auto ouais. peut bien exploser. Puis tu sais, c'est la même chose à la boxe. Mmh. Mais
ouais. Tu trouves-tu qu'on met trop l'emphase là-dessus des fois quand on parle de la boxe?
Je trouve que oui, mais en même temps, c'est normal parce ouais. que les gens qui connaissent pas la boxe, tu sais, qui en ont jamais fait, c'est ça qu'on voit. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'ils montrent à la télévision, puis c'est ils voient pas tout les behind the scenes, tu sais, tout ce qui se passe à l'entraînement, comment que l'athlète a monté, comment il est arrivé pour être ouais. pour arriver là. Puis oui, un combat, c'est des coups de poing à la tête, mais tu sais, c'est pour de vrai, c'est fait dans le respect. C'est bizarre mmh. à dire, là, mais c'est deux personnes consentantes
ouais,
qui sont
ça,
là, tu sais, qui deux personnes qui se sont entraînées pour être là aussi. Puis il y a des règlements. Tu sais, il y a la régie des sports, il y a les juges qui sont là, il y a les refs qui sont là, justement, pour nous protéger. Les deux vont avoir passé des radios au niveau du cerveau. Si tout est beau, il y a des médicaux, tu sais, pour savoir si les deux personnes sont vraiment en bonne santé pour pouvoir faire ce sport-là. Fait que, tu sais, c'est très, très surveillé. Puis si les gens décidaient d'abolir la boxe, mais le monde le ferait, mais au noir, comme ouais, ouais. en cachette, puis ça serait encore plus dangereux.
Des combats de chiens,
des combats,
moment,
exactement. Fait que, tu sais, c'est mais surveillé.
Tu penses-tu que le sport met... Puis c'est vraiment une question, parce que j'ai pas d'opinion là-dessus, mais est-ce que le sport met trop d'emphase sur le knockout, genre? Puis que sur... Parce que je pense que du point de vue du public, un knockout, c'est impressionnant, tu sais. Est-ce que tu sens que c'est encouragé qu'un combat se finisse en knockout ou pas nécessairement, mettons?
Je pense que oui, quand ouais, même, ouais, parce que... Ouais. Tu sais, ça serait mentir de dire le contraire.
Ouais.
Puis, tu sais, si on recule, v'là 100 ans, v'là 200 ans, v'là 300 ans, v'là 1000 ans, la bataille fait partie de notre ADN. Ouais.
La bataille, v'là, dans le temps des Grecs, était pire qu'aujourd'hui.
Était pas mal pire ouais, qu'aujourd'hui.
C'est
là,
ça. C'était combat mort par milliers.
Ouais. Fait qu'on dirait que l'être humain est comme... Il y a une curiosité
a ça,
par
oh,
rapport à la bataille. Que, hey, je connais quelqu'un qui faisait des combats de bêta. Tu sais, des poissons, là.
Ah ouais.
Comme tout le monde, dès qu'ils peuvent, ils font des combats de coq, combats de chien, ouais. combats de bêta, combats d'humains, des sumo. Tu sais, il y a toutes sortes de combats.
Ouais.
Mais d'où ça vient, ça? Ça doit être dans notre ADN du temps avant Jésus-Christ ou je sais pas quoi.
Il y a quelque chose de quand même primal.
Il y a quelque chose de primal.
Ça, qui est au fond ouais. de nous autres. Parce que c'est vrai que il y a quand même une curiosité, tu sais... De voir, mettons, tu sais, des fois à la sortie des bars, là, il y a genre des gars qui se battaient, puis
ouais.
c'est comme, tu veux pas nécessairement le voir, mais en même temps, tu peux pas vraiment regarder ailleurs.
Non,
là,
exactement.
C'est comme, tu regardes, tu fais, check les gars, ils se battent.
Ouais.
C'est quoi qui se passe, man?
Puis comme, t'as comme un peu de plaisir quand même à
ouais,
regarder.
C'est ça.
Fait que c'est fou, pareil, on est comme ouais. voyeurs un peu. Puis tu sais, c'est juste qu'avec le temps, ben, c'est plus des combats de gladiateurs qu'on se perce
ouais.
avec des épées.
Ouais.
C'est fait sous des règlements.
Ouais.
Des tests médicaux pour savoir si on est en bonne position pour le faire, de l'entraînement. C'est rendu très, très technologique, là, les entraînements aussi. Mm-hmm. Fait que c'est, je pense que c'est bien fait. Mm-hmm. Puis qu'on ne pourra jamais abolir les batailles. Sauf ouais. que c'est de la boxe, c'est du respect, c'est de l'art complètement. Là, ouais.
Toi, j'imagine que tu es capable de voir... de voir au-delà du knockout. Là, parce ouais. que moi, je me rappelle, ben, je regarde dans le prime de Floyd Mayweather, là, où est-ce que il battait contre les meilleurs, puis il n'y avait pas de knockout qui se faisait. Puis là, tout le monde disait, il est plate, Floyd ouais. Mayweather, c'est pas vrai qu'il est bon. Puis là, tu sors les statistiques de genre les coups que lui a touchés versus les coups qu'il s'est fait toucher, puis tu fais ça aucun bon non. sens. Là, Il a reçu deux coups de poing pendant le combat au complet. Là, le combat a l'air, somme toute, serré. Si tu regardes ça, mettons, puis tu fais, il n'y a personne qui se knock out, il n'y a personne qui se blesse. Ouais. Mais lui, il se fait juste pas toucher.
Il se fait
là,
pas toucher.
Ouais. Puis ça, j'imagine que toi, tu es capable d'apprécier ça
ouais.
Autant qu'un knockout, peut-être. Là.
Vraiment, même plus.
Ouais.
Parce que, tu sais, je pense que les boxeurs, on aime regarder la technique.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm. Tu sais, on va voir les esquives, le mouvement de son pied, son épaule, comment il a mis sa main. Tu sais, on va tout regarder les détails. Peut-être un peu que monsieur, madame, tout le monde qui connaissent un petit peu moins ça, vont pas apprécier parce qu'ils connaissent pas. Tu sais, ouais. c'est un peu de l'ignorance. Ah, c'est totalement normal.
Sans knockout, là,
c'est ça, c'est normal. C'est pour ouais. ça que. La catégorie maître que tout le monde capote, c'est les poids lourds.
Ouais.
Parce que tu sais jamais, un coup de poing, une personne va tomber. Fait que c'est ça que les gens ouais. aiment. Fait que tu sais, c'est drôle parce que les gens chialent que la boxe, il y a des knock-outs, puis c'est pas bon, puis nanana. Mais en même temps, c'est ce qu'ils payent, puis ce qu'ils veulent voir. S'il y en ouais. a pas, ils sont pas contents.
Ouais.
Fait que tu sais, de trouver un juste milieu là-dedans. Puis moi, j'ai deux knock-outs à ma fiche. Puis c'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai aimé ça. Tu sais, d'avoir le feeling
d'avoir une bonne décharge d'adrénaline.
Une bonne décharge d'adrénaline. Puis c'est des coups de poing que tu prépares. Tu veux tellement qu'ils soient de qualité. Puis souvent, les knock-outs, c'est même pas un coup de poing que tu vas frapper fort, là, que tu vas charger. Tu sais, des fois, tu vas ouvrir ta main trop grand, tu vas swinguer. C'est pas des swings, là, comme on dit. C'est vraiment un petit coup de poing de qualité très précis. Puis la personne, pouf, elle a un petit blackout. Puis elle se relève, tu sais.
Mm-hmm.
C'est vraiment, là, c'est mission accomplie. C'est bizarre à dire, mais ça pourrait m'arriver à moi aussi, là.
Ouais.
Parce qu'elle aussi cherche à me faire la même chose, donc.
Ouais. Ça doit être... J'avais jamais essayé d'imaginer le feeling de comme que le coup que tu lances knock quelqu'un, là, tu sais, puis que ça soit juste comme lights out, là, tu sais. Ouais. On ferme les rideaux, puis that's it, là, tu sais. Mais ça doit être... Ah, ça doit être quasiment... Même si tu le fais pas pour ça nécessairement, ça va être quand même euphorisant. Là,
c'est, ouais, c'est
puis c'est pas contre l'autre personne non plus.
C'est, pas contre
c'est vraiment
personne.
Un genre de.
C'est
bizarre à essayer d'imaginer.
C'est comme tu travailles pour quelque chose, puis ça a fonctionné.
Ouais.
C'est tellement d'heures d'entraînement. C'est un timing parfait dans ton combat, de ton coup de poing, de ta hanche qui est avec ton coude, avec ton épaule. C'est tout ensemble. Mais jamais, au grand jamais, moi, ça m'a passé dans la tête de me dire. Je veux y faire mal.
Ouais,
je veux qu'elle soit magasinée. Jamais. Mm-hmm. Moi, après chacun de mes combats, je vais dans le vestiaire, je me serre d'un bras avec la fille. Après mes combats, je suis amie avec toutes mes anciennes adversaires. On se parle encore. Mm-hmm. Je pourrais aller dans le pays, dans leur pays n'importe quand. Ils m'accueilleraient chez elles. Comme il y a beaucoup de respect. Puis on se le dit, tu sais, après le combat, quand tu m'as donné ce coup de poing-là au corps, je l'ai vraiment senti.
Ouais.
Tu as vraiment une bonne défensive. T'sais, on n'est pas gêné de dire ce que l'autre a fait de bien.
Ouais.
Fait que c'est ça le sport. Là,
ouais. Moi, avant mes compétitions, souvent, il fallait que je me mette dans un genre de mindset de genre de tueur. Là, je me mettais du death metal. Puis tu sais, ouais. je me crainquais vraiment. Toi, c'est quoi ton mindset quand tu rentres? Puis en plus, moi, c'était... J'étais tout seul dans mon couloir, là, il n'y avait personne. je me battais contre personne, mais je me crainquais, je me primais quand même beaucoup. Toi, est-ce que tu rentres dans un combat? Ben, c'est quoi ton rituel? Puis est-ce qu'il faut que tu te mettes en mode je m'en vais me battre? Ou est-ce comment tu fonctionnes la journée
pas tellement,
d'un combat, mettons?
Mais qu'est-ce qui est drôle? C'est la veille de mon combat. Souvent, on est à l'hôtel. T'sais, quand on va ailleurs et
ouais.
tout. Puis moi, mes entraîneurs, Daniel puis Stéphane, c'est un couple. Fait que tu sais, eux, ils dorment dans la même chambre. Puis moi, je suis tout le temps de la chambre à côté. Tu sais qu'on peut ouvrir la porte là, entre les deux,
ouais,
qu'il y a une chambre communicante.
Ouais.
Puis Daniel, elle dit, Kim, ça se peut qu'elle arrive à 4-5 heures du matin dans notre chambre comme ça pour nous jaser. Moi, j'ai besoin d'extérioriser.
Ah ouais.
Fait que des fois, mettons, je suis dans ma chambre puis je suis plus capable de dormir. Là, je vais ouvrir leur porte, j'y regarde. Là, je dis, je peux-tu venir? Il me dit, mais attends. Ah là, j'aimerais ça là, qu'on parle de la stratégie. Là.
J'ai, ah là, ouais. La journée avant.
Ouais, la journée avant. Puis là, je tourne. Hein, je suis comme un lion d'une cage.
Un fauve en cage.
Ah ouais, je tourne là. Puis là, ah ouais. Ah là, tu sais, tantôt, là, j'étais pas confortable. Là, puis on dirait qu'il me passait des mauvaises idées. Mais là, je suis correct. Là, je vous en parle. Là, puis je suis correct. J'ai besoin, moi, d'extérioriser. Là, j'ai dit, là, je regardais par la fenêtre. Puis là, j'ai vu, parce que j'ai boxé au MGM Grand
à
Las Vegas. Puis là, j'ai dit. Là, je regardais par la fenêtre, puis c'était écrit MGM. J'ai dit, j'en reviens pas, tu sais, j'étais à Vegas. Puis là, je me suis dit...
La plus grosse place au monde pour boxer. Là.
MGM, j'ai décidé que pour moi, ça s'appelait mon grand moment. C'est pour ça que c'est MGM, c'est mon grand moment. Puis je parle, puis je marche. Je
veux
juste dormir, il est 5 heures du matin.
Puis là, je dis, ah, ça se dit même en anglais, checker ça. My grand moment. My great moment. J'ai dit, ça se dit même en espagnol. Mi momente grande. Là, je dis, puis je marche, puis je suis dans la chambre, puis j'ai besoin... J'ai besoin d'extérioriser. Puis je dis, savez-vous quoi? C'est quoi ma force, moi? Là, il me dit quoi? Je dis, moi, là, c'est de rendre tout ce qui est inconfortable, confortable. Puis je marche, puis je marche. Puis après ça, un coup que je me suis extériorisée, je suis tellement bien, je dors là, comme un bébé. Oh, des fois, j'ai comme une genre de boule dans la gorge, puis il faut que je l'exprime, sinon je suis pas bien. Puis eux, ils sont rendus habitués.
Ouais.
C'est drôle. Puis là, l'armée, tout le monde se réveille, puis... On a-tu rêvé ça ou c'est arrivé? Ouais, il y a comme ça. Kim qui tournait puis qui disait My Grand Moment dans le genre.
Mes grands momentos! Qu'est-ce qu'il y a de ça passé?
Fait que c'est vraiment drôle. Puis sinon, la journée du combat, quand je vais rentrer dans mon warm-up, je mets toujours mes écouteurs puis j'ai une toune Fearless, que ça s'appelle. Puis c'est comme un gars qui fait un speech, mettons. Puis il y a une voix là, qui vient te chercher. Puis ça, j'écoute ça avant chacun de mes combats. Puis c'est quelque chose qui me met dans ma bulle, dans mon monde. Puis on dirait qu'avec ça, j'ai l'impression que je deviens invincible. Puis c'est le fun, ce feeling-là.
Ouais. La journée avant, un moment de même, là, ou tu sais, la semaine avant, là, moi, c'est un feeling que je retrouverai jamais dans ma vie, mettons, là, comment c'était le fun. Là, comment toutes tes pensées sont dirigées vers ça.
C'est vrai.
Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu es tout le temps en train de revoir les affaires dans ta tête, de voir un million de scénarios possibles, puis tu les réimagines. Toi, ça te fait ça aussi?
Ah ouais, exactement la même chose. Tu t'imagines ton combat, ta stratégie. Tu te rappelles qu'est-ce que t'as fait à l'entraînement.
Là, t'es capable
tu te
de
vois,
te voir.
Oh, ouais, tu te vois, OK, je vais être dans le coin rouge. Je vais marcher, mon entrée va être comme ça sur cette toune-là. Je vais faire ça à tel moment. Tu sais, comme tout, tu le vois tout dans ta tête. Même des fois, je me ferme les yeux puis j'essaie d'imaginer un round au complet puis je le vois. Là.
Mm.
Puis souvent, ça va quand même se ressembler. Plus j'y pense, plus je le médite, plus que physiquement, on dirait que je suis capable de l'interpréter. Là. Puis c'est rassurant. Je trouve de méditer, de penser, c'est quelque chose, mes pensées, c'est quelque chose que moi, j'ai le contrôle. Fait que, tu sais, j'essaie de contrôler tout ce que je peux contrôler. Puis, mais je suis pas quelqu'un qui va être sur le choc ou perturbé si jamais il y a
quelque chose qui change.
J'ai vraiment une capacité d'adaptation assez vite. Puis, je pense que c'est une de mes qualités.
Mm-hmm. Puis là, dans 6 semaines, tu l'as dit tantôt, tu... T'as un combat au Centre Bell.
Ouais.
Puis ça, c'est pour le championnat du monde, right?
Oui.
Puis est-ce que c'est le combat à date de ta carrière le plus important?
Définitivement. Ah ouais, hein? Le plus important.
Puis ça représente quoi ce combat-là pour toi, mettons?
C'est 15 ans de travail, 15 ans de sueur, de pleurs, de sang, d'échecs, de victoires, de toutes sortes d'affaires, tu sais, de choix qui m'ont amené là. Puis c'est exactement là où je voulais être. Puis là, j'y suis. Tu sais, je peux quasiment le frôler du bout des
doigts. C'est l'accumulation de toute ta carrière.
C'est l'accumulation de toute ma carrière. C'est le plus grand moment de ma vie là, à ce moment-là. Là. Tu sais, mon entrée vers le ring, vers le championnat du monde, avec mon équipe avec qui je travaille depuis 10 ans, que c'est notre rêve à tout le monde. On va le vivre ensemble. Tu sais, c'est quelque chose qui va être gros.
Mm-hmm.
Tu sais, toute ma famille, mes amis vont être là au Centre Bell. Ici, à Montréal, ça va vraiment être gros. Puis, tu sais, comme tu dis, je m'imagine tellement déjà à mon combat.
Tu le sais, là, tu sais qu'est-ce qui va se passer.
Puis à faire avoir ma ceinture en haut.
Mm-hmm.
ce moment-là, là, je veux le vivre. Là.
C'est l'objectif ultime, dans le fond. Là. C'est la marche. C'est-tu la marche la plus haute où il y a quelque chose? Y a-tu quelque chose?
Mais après ça, c'est...
Y a-tu quelque chose après,
après ça?
Après ça,
oui, tu peux unifier parce qu'il y a d'autres championnes du monde. Okay. Il y a 4 championnes du monde dans ma catégorie. Il y a 4 compagnies. On peut dire, moi, c'est WBC là, que je m'en vais me battre. Il y a IBF, WBO, WBA. Puis là, il y a une championne dans chacune des catégories. Fait que quand tu es au top, tu fais partie des 4 meilleures. Okay. Fait qu'à un moment donné, tu peux te battre contre une dentelle pour aller avoir 2 ceintures, puis à un moment donné, unifier pour avoir toutes les ceintures. Ça, c'est vraiment
la consécration
ultime. La consécration ultime.
Ça arrive-tu souvent, ça?
Ça arrive beaucoup chez les hommes. On en voit quand même beaucoup, mais c'est très dur à accomplir.
Ouais,
on voyait Canelo Alvarez.
Ouais.
Il y avait Floyd Mayweather.
Ouais.
C'est vraiment les grands qui sont capables d'aller battre tous les champions, ouais. C'est grandiose.
Ça, c'est vraiment, c'est le tournoi des champions.
Ah ouais,
c'est hot, là.
Ça, c'est tu gagnes la grosse bourge d'argent dans Squid Game, là, c'est comme... Mm-hmm.
Tout le monde est mort.
Tout le monde est mort.
Puis, la fille contre qui tu te bosses, c'est une Mexicaine, c'est qui? Comment qu'elle s'appelle?
Elle s'appelle Yesenia Gomez. C'est une fille, c'est la première championne du monde de Cancun. Fait qu'elle, elle vient de Cancun. Est championne depuis 2018. Ça va être sa 5e défense de son titre. Fait que c'est la première fois qu'elle va boxer en dehors du Mexique. Fait que c'est vraiment cool, ça, que ça se passe
ça
chez moi.
Ici, ouais.
Puis j'ai été la voir boxer en direct avec ma coach le 3 semaines. Elle boxait le 16 octobre. On est allé la voir boxer directement là-bas au casino de Cancun. Fait que tu sais, j'étais allé comme espionner en. J'étais comme en mission.
On a profité pour faire un petit tout inclus.
Ouais, c'est
une
ça.
Semaine dans un tout
en
inclus.
Terrain et demi.
Mais elle, de te voir là, ça l'a-tu déstabilisé? Genre, c'est comme voyons, qu'est-ce qu'elle fait
ben,
là?
Ben, je pense que c'est sûr que ça joue dans la tête un peu. Tu sais, t'imagines-tu ton adversaire avec qui, contre qui tu vas boxer au championnat du monde vient de voir boxer chez vous, elle s'est payé un billet d'avion, l'hôtel, tout pour venir chez vous. C'est sûr que ça joue dans la tête.
Ouais.
C'était tellement drôle parce que son promoteur puis l'annonceur et tout, quand ils m'ont vu là-bas, ils m'ont fait monter sur le ring.
Ah ouais?
Ben moi, je pensais pas, j'avais rien préparé, là, j'avais pas, ils m'ont posé plein de questions en espagnol, puis « Hola, si, yo voy... »«
Mi grande momento. »
C'était vraiment drôle, puis à la fin, on s'est serré la main, on s'est regardé. Elle est plus grande, elle est quand même assez grande. Ça va vraiment être un gros combat.
C'est une adversaire redoutable.
Ah ouais, très redoutable. Ah. Elle, ça fait longtemps qu'elle est professionnelle, elle a beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle est rendue à 23, 24 combats professionnels.
C'est quoi sa fiche?
C'est 19 victoires, 5 défaites, 2 combats nuls, puis je pense qu'elle a 7 ou 8 KO à sa fiche.
Puis toi, mettons, t'es-tu en confiance absolue? J'imagine que oui.
Oui.
Ouais.
J'arrive là, c'est sûr que tout peut arriver, c'est un combat de boxe, mais comme...
T'arrives là en gagnant.
Je m'en vais là en gagnante, là, tu sais, puis je sais que je vais performer... Je suis une fille qui performe beaucoup sur le stress, on dirait encore plus que quand j'en ai pas. J'ai besoin de cette adrénaline-là, puis j'ai tous les outils, j'ai toute l'équipe qu'il me faut pour pouvoir arriver à la victoire, mais c'est à moi de livrer la marchandise.
J'imagine qu'en ce moment, puis là, on va pas entrer dans les détails d'un coup qu'il y a des espions mexicains ici, mais j'imagine que là, en ce moment, dans ton plan d'entraînement, tu travailles des affaires vraiment spécifiques à cet adversaire-là.
Oui, 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 vraiment.
Fait que tu sais des affaires, que tu as ton plan de match, puis là, tu le travailles, puis c'est pour ça que tu es capable de si bien le voir, j'imagine.
Oui, on le répète, on le répète, on le répète. T'sais, dans boxe, c'est ça, le... Tu sais, des fois, je sais pas si vous, quand vous regardez des combats de boxe, vous voyez comment il a fait pour voir ce coup de poing-là. Mm-hmm. Il l'a bloqué, mais c'est parce que
tu sais que cette personne-là en fait...
Mais ça devient tellement naturel, tu y penses. Même pas, souvent, le boxeur, quand il va le bloquer... Il s'est pas dit dans sa tête, je vais lever ma main parce que je vois qu'il est en train de frapper. Ça fait même pas ça. Tu n'as même pas le temps de réfléchir à rien. Mm-hmm. C'est ton corps le fait automatiquement. Ça devient tout des acquis que tu réfléchis même pas. Tu passes en dessous du coup de poing, mais tu n'étais même pas conscient que tu le faisais. Ça le fait tout seul. Puis c'est ça qu'on répète. On répète, on répète, on répète pour avoir à moins réfléchir la journée du combat, parce que réfléchir, ça te ralentit. Tu sais, quand tu prends trop de temps, ça te fait des hésitations. On veut pas réfléchir.
Faut que ce soit de la mémoire musculaire.
Exactement. Tu réfléchis même pas, puis tu y vas. Tu fais confiance à ton corps.
De te battre contre une adversaire qui est quand même pas mal plus grande que toi, j'imagine que c'est une difficulté supplémentaire.
Oui, c'est une difficulté, mais je suis habituée quand même, même autant dans ma carrière amateur, j'étais quand même tout le temps dans les plus petites. Fait que c'est pas nouveau pour moi de boxer contre quelqu'un qui est plus grande. Même, on dirait que je suis plus confortable de boxer contre quelqu'un qui est plus grande que quelqu'un qui est plus petite que moi.
Okay. À mesure, combien de pouces plus grand que toi?
Moi, je suis 5 pieds 1, puis elle est 5 pieds 6.
Ah ouais, OK, quand même. Mais ça, mais, puis vous êtes les deux mi-mouches.
Ouais, elle est, les deux elle, à 108 elle est minuscule, livres. Ça veut dire, là?
Ben, en fait, de... plus sur le long, mais ouais. Quand même... OK, ouais. Ça. Moi, je suis peut-être un petit peu plus musculaire qu'elle, ouais. Mais elle est faite plus sur le long.
On peut mais dire. La longueur de bras, ça doit jouer, ça?
Oui, ça joue la portée. Ouais, fait que, tu sais, on a une stratégie pour justement...
Par rapport à ça.
Par rapport ouais, à ça, couper sa distance. Là, okay. D'être rough avec elle, de pas la respecter, de rentrer les mains hautes. T'sais, si j'ai les mains hautes comme ça, puis elle me frappe ici, c'est pas dangereux, mais il faut vraiment que tu deviennes dur des avant-bras, ouais, comme du béton, là, mm-hmm. Pour pas la laisser faire ce qu'elle veut, pas la laisser s'installer, pas la respecter, la faire reculer, la mettre sur ses talons, la faire boxer de reculons parce qu'elle, c'est une
pour
fille...
Pour que son range puisse pas lui servir.
Ouais, moins lui servir. Là. Ouais. Puis quand t'es plus petit que l'autre, qu'est-ce qui est bon, c'est de boxer encore plus petit. Mm-hmm. De te faire une cible encore plus petite.
Okay.
Fait que ça devient plus difficile pour la personne qui a des longs bras. Ils sont trop longs.
C'est hot. Il y a encore des billets, j'imagine, disponibles.
Oui, il y a encore des billets sur Ticketmaster. Fait que ça s'appelle la triple couronne parce qu'il va y avoir 3 combats de championnat du monde ce soir-là, dont Arthur Beterbiev, okay. Qui va défendre sa ceinture contre Marcus Brown. Ça va vraiment être un gros combat. L'issue du combat est comme vraiment... tu le sais pas.
Eux autres, c'est les poids quoi?
Eux autres, c'est 175 livres.
OK.
Il va y avoir Marie-Ève Dicker qui va boxer aussi pour essayer de ravoir sa ceinture IBF. Puis il va y avoir moi qui va essayer d'aller détrôner Yesenia Gomez. Fait que ça va vraiment être une grosse soirée de boxe. Je pense que ça fait longtemps au Québec qu'on n'a pas eu une soirée de boxe ouais. Comme qu'il va y avoir le...
Tu viens de me le vendre, moi, je vais y aller.
Ah, allez.
C'est diffusé où, ça, cette affaire-là?
Ça va être sur les... Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'Arthur Beterbiev, il est signé avec Top Rank. C'est un des plus gros promoteurs américains qui est avec Yvon Michel, aussi mon promoteur. C'est une copromotion. Puis lui, il emmène les réseaux ESPN.
Ah ouais, OK.
Fait que nos 3 combats vont être sur les réseaux, la chaîne américaine.
La plus grosse chaîne au monde.
La plus grosse chaîne au monde, ESPN. Fait que c'est vraiment une belle visibilité.
Wow.
Aussi.
C'est vraiment hot, ça. Vraiment, ouais, je vais y aller.
Ben oui.
Je vais y aller. Ça fait mais longtemps ça, que je peux aller voir un match de boxe. La dernière fois, je sais même pas, ça remonte à quand.
Avec la pandémie, puis tout.
Ouais, avec la pandémie, puis tout. Ouais, ouais.
Ouais,
puis là, non, ça, ouais, ça me tente. Ça, tu viens de me.
Je t'ai vendu ça.
Tu viens de me vendre ça. Ça va être hot. Puis, avec la préparation que tu as eue, j'imagine que. Est-ce que dans ta tête, la vision que tu as, ça se termine à ce combat-là? Dans le sens, est-ce que après tu te dis, je vais finir ce combat-là, puis après ça, je penserai au next step, ou bien t'es comme un peu déjà...
Non,
dans...
moi, ça s'arrête à ce combat-là. Hein? Tu sais, c'est vraiment... J'ai des objectifs à long terme, mais là, ils sont oubliés pour le moment.
Tu
là,
penses
c'est,
pas à ça.
Je pense pas à ça. C'est à court terme, c'est elle. Tu sais, j'ai même de plus en plus une vision tunnel. Là.
Ouais. Mm-hmm.
Puis on dirait que je sais pas pourquoi ce camp d'entraînement-là me fait prendre beaucoup de prise de conscience sur moi-même. Tranquillement, on apprend beaucoup à se connaître au travers du sport puis de la vie en général. Mais je suis en train de prendre des décisions pour m'améliorer encore plus. T'sais, je réalise que je passe énormément de temps sur mon téléphone, mes réseaux sociaux. Puis pendant ce temps-là, ben, je ne m'étire pas, je médite pas. Ou des fois, j'aime lire, je lis pas parce que j'ai tout le temps mon téléphone à côté. Mm-hmm. Fait que je veux couper ça. T'sais, vraiment pour me recentrer sur moi-même. Couper mes réseaux sociaux. Il y a une fille qui va s'en occuper, les distractions. Même si c'est con, mais je sens des fois que je néglige mes amis, ma famille, mais ils comprennent. T'sais, j'ai pas le temps, moi, de sortir le vendredi soir ou d'aller visiter telle personne. T'sais, j'essaie vraiment de faire tout ce qu'il faut pour que le jour J, je me dis pas « Merde, j'aurais donc dû passer moins de temps sur mon téléphone puis m'étirer puis... » lire ou faire tel truc, dormir plus, au lieu d'avoir mon téléphone dans les yeux jusqu'à 3 heures du matin. T'sais, fait que j'essaie vraiment de prendre conscience sur moi puis de faire les bons choix puis d'avoir aucun regret le 17 décembre.
Mmh. Ouais. Qu'est-ce que la boxe, tu penses, là, va t'avoir amené le plus dans ta vie puis que tu vas pouvoir... traîner avec toi pour le reste de la vie. C'est quoi les apprentissages? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein.
Ah,
là.
C'est sûr. Il y a de la confiance en moi. Ça, c'est certain. Des gens avec qui je vais avoir une amitié. Tu sais, des amis qui sont devenus comme des sœurs là, dans ma vie. Là, genre, tu sais, des amis, des vrais amis, j'en ai pas de temps. Mm-hmm. Mais il y a surtout une de mes amies, Sarah Kelly, c'est une fille qu'on a été sur l'équipe nationale ensemble. Elle vient même dans mon coin quand je boxe. T'sais, on est vraiment comme des sœurs. Puis ça, c'est quelque chose que la boxe va m'avoir apporté. Mm-hmm. Mais ça va être une amie pour la vie. Aussi une discipline. Parce que dans la vie, moi, je suis désorganisée. Si vous saviez à quel point je suis une personne désorganisée. tu sais, le ménage, la vaisselle, ma chambre, moi, il peut avoir une pile de linge. Tout ça, je suis pas organisée, pantoute, mais dans la boxe, je suis très, très disciplinée. J'ai mon agenda à telle heure, je vais faire tel truc, je vais manger telle affaire. Fait que je pense que ça m'a aidée à m'organiser dans les autres sphères de ma vie, tu sais, m'apprendre à avoir un horaire et la respecter. Parce que je suis vraiment...
Pêle-mêle. Pêle-mêle.
Fait que ça aide d'avoir l'équipe là, qui t'amène jusqu'ici, puis qui te dit « OK, à telle heure, on s'en va », puis d'avoir cette structure-là.
Ça, puis la boxe, c'est bizarre parce que quand j'ai commencé à boxer, mettons, j'étais au secondaire, puis j'étais quand même assez introvertie. J'avais pas tant d'amis. J'étais timide. Je vivais des affaires aussi côté familial qui étaient... Tu sais, j'ai dû me débrouiller assez jeune dans la vie, admettons. Puis la boxe, ça m'a apporté un sentiment d'appartenance. Tu sais, quand j'arrivais au gymnase, c'était comme une famille. Des gens qui s'occupaient de moi ou qui étaient très paternels. Mettons, mon premier coach, je le voyais un peu comme un père. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis plus je m'améliorais dans la boxe, plus je m'améliorais dans la vie. Parce que moi, j'étais une décrocheuse scolaire, puis tout, tu sais, j'ai fini mon secondaire 5, j'avais 21 ans, là. J'ai retourné à l'école, j'allais refaire mon cours d'anglais, puis c'est tout par rapport à la boxe. C'est des amis que j'avais dans la boxe qui m'ont incité, « Kim, fais-le, c'est important, puis viens habiter chez nous à Montréal. » Puis c'est comme ça, une année, j'étais venue habiter 2 ans à Montréal pendant que je faisais mon secondaire 5, puis mes amis m'ont beaucoup aidé. Puis c'est toutes des amis que j'ai rencontrés dans la boxe. Fait que, tu sais, j'ai eu un bon cercle, des bonnes influences. Puis c'est toute la boxe qui m'a apporté ça.
Trouver une appartenance, c'est probablement une des choses principales. Je fais juste penser comment... Moi, je veux partir complètement... Tu sais, moi, la natation, ça a été ça. Là, ça a été l'appartenance. Là, c'est comme là, tu trouves. Puis tu t'accomplis dans quelque chose. Puis tu t'émancipes dans quelque chose. Puis le monde t'encourage, puis t'es bon dans ça.
Tu rencontres du monde qui a la même passion que toi, tu sais.
Exact. Puis tout ensemble, vous vous élevez, puis étant donné que vous élevez à l'intérieur de cette affaire-là, ben ça te permet de te sentir mieux, puis d'être plus à l'aise à l'extérieur de cette affaire-là. Puis même les... tu sais, des groupes comme au secondaire, des geeks qui jouent à Donjons Dragons, mettons, là, tu sais. Ben, Chris, c'est un sentiment d'appartenance, pareil.
Ils sont une gang qui s'amuse ensemble.
T'es des amis, t'as un intérêt commun, tu t'émancipes dans ça. Même si s'émanciper dans un monde imaginaire, ça peut paraître fou, mais dans le fond, c'est pas plus imaginaire que la natation, là, tu sais, dans le sens où c'est quelque chose avec des, tu sais, avec une échelle de performance, puis whatever, mais trouver un sentiment d'appartenance...
Peu importe
pour les
le domaine,
jeunes, je trouve que c'est tellement important. Là,
vraiment.
Tellement important.
Puis, tu sais, de croire en ses rêves. Tu sais, quelqu'un qui rêve de devenir artiste, mais vas-y, puis essaye, puis prends des décisions. Puis, tu sais, il faut risquer dans la vie pour essayer de réussir. Tu sais, si, admettons, on m'avait dit un jour, Kim, tu vas boxer au Centre Bell pour un championnat du monde. Tu sais, quand j'avais 13 ans, 14 ans, tu fous, toi. Il n'y a même pas de fille qui boxe. Comme tu ne penses pas à ça. Mais. On dirait ma mission, là, c'est d'encourager les jeunes, d'inspirer les jeunes à foncer dans la vie, peu importe la sphère, que ce soit de l'art, de la danse, peu importe le sport, que tu sois un homme, une femme, jeune, vieux, n'importe quoi. Comme tu dis, avoir un sentiment d'appartenance dans quelque chose. Mais
d'avoir une passion.
D'avoir une passion.
C'est ce qui fait que tu te lèves. Puis, tu sais, nous autres, mettons, dans le temps de secondaire, là, t'sais, quand on était en sport études, puis tout ça, puis mettons, je regarde notre gang, puis je regarde le monde avec qui on allait à l'école, t'sais, en sport études à ce moment-là. La plupart du monde, je sais pas, t'sais, sont devenus des belles personnes, la majorité du monde, t'sais, parce que. Puis sont pas tombés dans toutes sortes de problèmes non plus. On dirait que le sport, juste le fait d'avoir une passion, ça te garde un peu sur le droit chemin d'une certaine manière parce que t'as quelque chose que t'as une raison de te lever, t'as quelque chose que tu veux t'améliorer, t'as quelque chose que tu veux faire puis que tu veux pas non plus bousiller. Hein, t'sais, dans ce temps-là, je veux dire, au secondaire, on faisait le party de temps en temps, mais t'sais, on était somme toute sages pour des ados parce qu'il y avait la natation qui disait la priorité, c'est je peux pas là, aller le vendredi
tu
soir.
Tu savais que
là,
le lendemain matin, il fallait que tu sois dans la piscine à 6 heures. Ouais.
Ben exact. Puis si je dormais pas de la nuit ou si je virais la pire des
c'est
voix.
Facile de mesurer que t'es ouais. off. Là.
Ben oui,
natation, c'est comme ça. Notre coach, avec un chrono, pouvait savoir, c'est comme...
Qu'est-ce que t'as fait hier
qu'est-ce
soir?
Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Mais juste un chrono une fois. Là,
tu sais, ouais. Si on n'avait pas eu ça, je veux dire, on ne saura jamais, mettons, la vie aurait donné quoi, mais c'est clair que ça te forge une personne puis ça te fait devenir une meilleure personne. Ça, c'est sûr et
ça,
certain.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Ouais. T'as-tu, je t'entends parler, puis est-ce que t'as pensé donner des conférences? Parce que là, tu racontes... que tu étais décrochage scolaire, puis que ça t'a ramené là, de poursuivre tes rêves, puis tout ce que tu dis depuis tantôt, je trouve ça vraiment fascinant, puis je trouve que c'est un message qui est ultra pertinent, surtout à entendre pour des jeunes, ouais. Tu sais. Donner des conférences, parler de ton parcours, c'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu
c'est
penses
pas quelque
faire.
Chose que je fais encore. Je l'ai fait une fois, j'avais été une de mes amies à travailler dans une école secondaire, puis c'est mm-hmm. l'école où j'allais quand
ah,
j'étais
ouais,
au secondaire.
Okay.
Puis j'ai été faire une conférence là, puis j'ai vraiment vu que les jeunes avaient apprécié.
C'est sûr.
Interagir avec eux autres, poser des questions, montrer mon parcours. Puis mon parcours était vraiment à la moitié peut-être d'où je suis en ce moment. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire à la suite. Comme là, je veux être championne du monde.
Ouais, ben là, c'est sûr.
Puis après ça, c'est quelque chose que j'aimerais aller jaser avec les jeunes parce que je trouve la jeunesse est tellement important. Tu sais, c'est la relève. C'est eux qui vont prendre les décisions de plus
mais
de
oui.
nos futures décisions, ça va être eux autres. Là.
Ouais.
Fait que j'aimerais beaucoup aller jaser avec eux, montrer mon parcours. Puis, tu sais, des fois, voir une petite fille, tu sais, qui peut te faire penser à ce que tu étais, puis dire ce que tu aurais aimé toi te faire dire. Là.
Ouais.
Tu sais, je trouve que c'est tellement important. Puis, tu sais, il y a certaines personnes dans notre vie, je sais pas si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a déjà dit une parole ou... Quelque chose
qui t'est resté.
Qui t'a resté en tête, puis ça a peut-être même changé le cours du restant de ta vie.
Ben, définitivement.
On a tout du monde de même. Je pense qu'on croise le chemin des profs. Tu sais, moi, je pense à deux, trois, mettons, profs que j'ai eu soit au secondaire ou au cégep.
Que tu vas te rappeler toute ta vie.
Je vais me rappeler
là.
Toute ma vie, puis qui m'ont marqué, puis qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Là.
Fait que c'est important de devenir des personnes comme ça.
Ouais.
Tu sais, qui peut faire une petite différence dans la vie des jeunes.
Puis des fois, c'est con parce que c'est. Une phrase dite à amener de moi, j'ai des exemples là, de personnes qui ont... Mais même pas des personnes que je juge extrêmement...
inspirantes,
là. Mais juste à amener, il y a eu une phrase qui m'est revenue puis que j'y pense souvent puis que je fais comme... Ça guide certaines de mes décisions. Puis cette personne-là, quand elle l'a dit...
C'était
probablement
même pas pour
qu'il
toi,
s'en calissait, là, tu sais, de dire ça.
Il se disait pas, je viens de changer sa vie.
Non, c'est ça. Ça, au contraire, là, au contraire, mais comme ça, c'est ça que ça a fait.
Fait que nos paroles, ils ont bien plus de portée qu'on le pense des fois. Fait que j'aimerais ça m'en servir.
Je suis allé, voilà, une couple d'années, après que j'avais fait Occupation Double, je me suis fait inviter à une école pour donner une conférence sur, ben, pas une conférence, c'est plus un atelier de création littéraire parce que j'écrivais des contes pour enfants avant d'aller à Occupation Double. Puis, je suis allé là, puis les jeunes étaient assis devant moi. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'avais noté une couple d'affaires, une couple de questions, dans le fond, puis il fallait que les jeunes répondent à ces questions-là ou me donnent des idées. Tu sais, mettons, ça me prend un objet magique, puis là, c'était comme une carotte qui est infinie, là, tu sais. Fait que, mettons, tu croques la carotte, puis là, elle sort de ta bouche, puis elle est encore pleine, une carotte,
ouais.
Puis là, tu sais, plein de questions comme ça. Puis là, au final, à la fin, j'avais toutes leurs questions, puis moi, dans ma tête, j'avais déjà une planification d'un conte que je voulais leur raconter. Sauf que j'utilisais, dans le fond, les réponses à leurs questions pour raconter ce conte-là, mais avec leur idée. Puis eux autres, dans le fond, en entendant ça, c'était leur histoire à eux autres. Là, fait que c'est comme si je venais d'inventer leur histoire avec eux autres. Exact. Puis là, tu sais, je voyais qu'ils trippaient, puis tout. Puis après, j'ai fait, ben, en tout cas, c'était vraiment le fun. Je suis parti. Puis cet été, je donnais un coup de main à un ami qui a une pizzeria dans le bas du fleuve. Puis un couple est venu manger là, puis ils m'ont reconnu parce que j'étais serveur, puis en fait, hey, il dit, on était prof à telle école quand t'es venu, puis nous autres, on était en arrière, puis moi, je le reconnaissais pas parce que ça
fait longtemps.
Mais ils disent, les jeunes en ont parlé littéralement pendant toute l'année scolaire, puis l'année d'après, sont rentrés dans leur cours, puis ils ont dit à leur prof, ils continuent à en parler après un été complet là, de ce conte-là, comment ils avaient trouvé ça insane.
Fait que ça les avait marqués.
Ça les avait marqués complètement. Moi, je suis sorti de là, c'était comme, hey, on a eu un good time, c'était le fun, tu sais. Les jeunes, ils en ont parlé pendant
toute
deux ans
de cette histoire-là. Tu vois comme la portée ton compte, tu sais, qu'est-ce que ça l'a fait dans leur tête, là.
Puis peut-être qu'il y en a un dans la gang qui va faire crème des comptes, c'est le fun, tu sais, l'écriture, la littérature,
ça m'intéresse, puis j'ai envie de le faire, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est beau, la portée. Là, une couple de jours, il y a une madame, elle m'a écrit, elle m'a dit, Kim, est-ce que ça te dérangerait de répondre à une ou deux questions de ma petite fille, comme au primaire, a fait sa communication orale sur toi? Hein? Mais ça arrive de plus en plus.
Ouais.
Comme sa communication écrite, sa communication orale, sa production écrite, ils font sur moi. Puis là, ils veulent que je leur envoie une petite photo ou un père de famille. Mais dit Kim, je trouvais ça beau de t'envoyer cette photo-là. Ma fille adore avec ta photo à côté de son lit. Là,
c'est-tu
touchant? J'avais les larmes qui me coulaient. Ouais. J'étais comme, cette petite fille-là, avant d'aller se coucher, elle regarde ma photo, puis c'est comme... Je sais pas si c'est son héros, son petit modèle, mais je dis, d'être ça pour quelqu'un, ça te donne-tu envie de prendre les bonnes décisions dans la vie, puis ça te donne-tu envie de réussir ou d'être une bonne personne puis de montrer l'exemple?
Ouais.
Moi, je pense que c'est ma plus grande motivation.
Mm-hmm. Moi, j'ai écouté Big Brother. mais tu penses-tu que ça a fait ça? Parce que, tu sais, Kim Clavel, c'est... Tu sais, je pense que ça t'a fait découvrir à vraiment beaucoup de monde.
Ouais.
Là, puis, je me souviens aussi quand tu étais là.
Les gens qui suivent le sport un peu, moi je te connaissais avant ça, là, mais, mais effectivement, pour le grand public.
Ça l'a fait ouvert un peu à monsieur, madame, tout le monde.
Ouais.
De
qui
connaître...
est devenu plus une personnalité publique à ce moment-là. Là,
ouais.
Puis est-ce que c'est quelque chose que. Je sais qu'après, tu y penses pas, mais est-ce que d'être plus dans le public, plus dans les médias, puis plus être quelqu'un qui. Qui a cette portée-là d'inspirer le monde, c'est quelque chose qui t'intéresse, mettons, sur le long terme?
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais tu sais, Big Brother, je l'ai vraiment fait à la base. Je savais même pas tant c'était quoi, Big Brother. Avant ça, c'était quoi? Je me préparais vraiment plus que ça parce que.
Ben, tu t'es rendu quand même moins. Je pense que ça a bien été quand même.
Ouais,
ça,
mais avoir su que c'était. Les gens qui votaient, ceux avec qui on habitait, j'aurais peut-être fait plus attention à certains propos que j'avais dit.
Okay.
Parce que le vrai Big Brother, en fait, les personnes qui sont éliminées ne regardent pas les émissions.
Ah.
Ils s'en vont dans une autre maison, puis comme ils ne voient pas. Parce que c'est ceux qui peuvent tous nous juger quand on leur a menti, mais en même temps, c'est parce que c'est ça le jeu de mentir, de trahir, d'aller trouver des façons de faire qui ne sont pas toujours correctes pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est un jeu. Là.
Ouais.
J'ai peut-être pas toujours été très chic. C'est correct, je l'assume.
Ouais.
Mais j'ai vraiment voulu embarquer là-dedans en premier, justement pour me faire connaître un peu plus de monsieur, madame, tout le monde.
Ouais.
Parce que la boxe, c'est un business, puis il faut vendre des tickets un peu. Il faut que les gens soient intéressés à venir te voir. Je voulais faire connaître la boxe féminine, puis c'était vraiment ça mon objectif. Puis en plus, c'était de ramasser des sous pour pouvoir investir dans ma carrière parce que ça coûte vraiment cher une carrière de boxe. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que ça a vraiment fonctionné. Il y a comme vraiment eu une vague négative, là, une semaine, deux semaines à ma sortie. Mais après ça, ça s'est vraiment...
Ça dure jamais longtemps.
Une semaine, deux semaines, je te garantis que c'est pas très long.
C'est pas long.
Non, c'est ça.
pour avoir vécu un petit peu plus longtemps que ça, je te garantis.
Toi, t'as eu une vague de négatifs après
quand même. Pendant un bon petit bout, mais c'était mitigé.
Moi, ça m'a blessé là.
Ah ouais, c'est
J'ai tellement trouvé ça dur parce que j'étais tellement habituée que moi, c'était positif, mes combats positifs. L'infirmière, tu sais, le patrimoine, tu allais aider un coup de main dans les CHSLD, la pandémie, c'était toujours beau. Puis là, c'était comme, j'étais une hypocrite, j'étais une ci, j'étais une ça, je m'habille mal, j'ai des trous d'aging, j'ai un ride dans le front. C'était toutes sortes d'affaires méchantes, là. Puis je lisais ça, puis j'ai dit, t'as beau te mentir à toi-même en te disant, moi, ça me fait rien, là, ça, je m'en fous. Non, ton petit cœur en dedans de toi, il craque un peu, là, tu sais, ça. C'est
mais je
pas
me
le
souviens
fun.
Plus, tu sais, c'est sûr que les émissions de même, ça met la loupe aussi sur. Un aspect, un trait personnalité. Puis, tu sais, je me souviens plus, c'était, je sais pas si c'était quand on a reçu François Lambert aussi, pas longtemps après qu'il soit sorti, ou peut-être en chantant avec Lisanne, je me souviens plus. Mais, tu sais, François. Mais je me souviens que, tu sais, il disait, tu sais, que Kim dans la maison, c'était un petit clown, puis t'étais funny, t'étais drôle, t'étais fine, t'étais tout ça, puis qu'on a moins vu ça à télé.
Ouais, on n'a pas vu ça pantoute. Tu sais, quand j'ai regardé les émissions, justement.
C'est ça la représentation.
Ce montage-là, des fois, mettons, je disais quelque chose, je dis, le contexte, c'était pas ça pantoute. Parce que, me semble, dans la maison, là, comme il dit François, moi, j'étais le clown. Je riais, je chantais, je niaisais sans cesse. Je pense que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas mettre ça. Je niaisais tout le temps. Je disais des affaires par rapport. Je faisais des acrostiches à tout le monde, à Jean-Thomas, que ça avait pas de sens. Je peux même pas répéter ça. Mais comme tout ça, c'était, il ne pouvait pas mettre ça dans la TV là, tous les jours. Là. Fait que, tu sais, on voyait mes moments un peu plus...
stratégiques, là.
Stratégiques, irritables. Camille qui parlait tout le temps, tu sais, quand...
Moi, ça gosse, là, qu'est-ce que tu veux, je te dis.
Mais tu sais, je les aime tellement, ce monde-là, là. J'étais encore super bon terme avec tout ce monde-là.
Mais ça t'a-tu permis, comme tu disais, de... Tu sais, mettons, en ce moment, quel entraînement que t'as, tout l'entourage que t'as, Big Brother, t'as-tu permis d'avoir, d'être aussi bien entouré aujourd'hui, ou...
Ouais, vraiment, je suis bien entourée. J'ai du bon monde autour de moi. Tout le monde a bien géré les situations. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis... Je parle encore beaucoup avec Jean-Thomas François. Il était là à mon dernier combat. C'est une expérience humaine inoubliable.
Ouais, qu'il n'y a personne d'autre que ceux à qui tu l'as fait qui savent de quoi tu parles.
Non, exactement. Ouais. D'être enfermé 93 jours sans pouvoir aller dehors, sans ton téléphone, sans rien, de vivre ton deuil devant tout le monde du Québec parce que mon grand-père est décédé pendant que j'étais là-bas. C'était rough. Puis moi, je suis quelqu'un qui est tellement dans discipline dans mes combats. À telle heure, je me lève, je fais telle affaire, je m'en vais au gymnase, je dois manger tel truc. Puis là, t'es... Tu dors avec cette personne dans la même chambre, l'autre qui ronfle, l'autre qui pète. T'as deux toilettes pour 15 personnes. Moi, ça fait 15 ans que j'habite toute seule dans mon petit 3,5, puis je suis bien, puis là, c'était plus ça.
T'as-tu quand même réussi à garder une routine d'entraînement pas si pire selon tes standards? Ou ça
vraiment?
Ah
ouais, okay. Avec François, lui, c'est un athlète aussi.
C'est un bon crinqué, on peut en parler tant qu'on veut, mais c'est
Il est quelque chose. Puis tu sais, des fois, on se lançait des défis. Bon, Frank, aujourd'hui, on monte puis on descend les marches pendant 30 minutes. On le faisait. Frank, aujourd'hui, on fait 10 sprints d'une minute puis telle affaire. Aujourd'hui, on fait 3 heures de cardio. On fait 1 heure de course, 1 heure d'elliptique, 1 heure de vélo, back-à-back. Comme tout ça. Puis des fois, le monde venait nous regarder dans le gymnase. Il venait jouer de la guitare, venait chanter. Puis nous autres, ils venaient nous encourager, mais on faisait nos 3 heures. Ouais. Après ça, on va faire, on va manger bien pendant une semaine. T'sais, tout le monde a maigri à Big Brother parce qu'on mangeait bien. C'était quand même une gang positive pour de vrai.
Moi, si j'avais à retourner puis me parler à moi d'avant OD, là, ça serait mon conseil numéro 1. Ça serait... arrête jamais de t'entraîner. Parce que la seconde que j'ai arrêté de m'entraîner, c'est là que mentalement, je suis parti dans le noir, j'ai commencé à broyer de la shit, puis c'est là que ça a moins. Puis tu le vois même à l'écran, là, tu sais.
Que tu t'es mis à pas être bien, puis...
Je me suis mis à comme être plus moi, vraiment, puis à me laisser déranger par des affaires qui habituellement me dérangeraient pas pantoute, là, tu sais. C'est vraiment quand j'ai arrêté de m'entraîner, puis je sais exactement c'est quand dans l'émission, puis je le vois tout de suite, qu'est-ce qui se passe.
C'est vrai que ça fait ça. Hein? Ouais. On dirait qu'on devient débalancé dans la tête. Chris, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Mais là, tu réalises, tu fais le lien, tu es irritable. Ouais. Tu dis des affaires, des propos que tu n'aurais jamais dit, comme tu te reconnais même plus, là, tu sais?
Des fois, ça me fait ça, puis nous autres, on en parle quand même souvent, là, sur le podcast de ça, mais ça m'a refait ça hier, OK? Hier, on avait quand même un bon début de journée ici, puis moi, j'avais d'autres affaires à faire en arrivant à l'appart, puis mon horaire était quand même tight, puis j'avais un show le soir, fait que j'étais comme limité dans le temps qu'il fallait que je fasse. Fait que j'étais comme un peu overwhelmed de toutes les affaires que j'avais à faire. Puis là, j'étais allé courir. Puis en revenant, il n'y avait plus rien qui était dérangeant.
C'est ça,
genre, j'étais comme, mon horaire est là, faut que je fasse ça, j'aurais pas le temps de le faire, je vais le faire demain matin. Ferme le dossier, c'est fait.
Puis là, comme tu t'es arrêté de te compliquer...
Ouais.
Toute ta tête.
Là, la tête est juste clairée complètement, puis là, il n'y a plus rien qui peut me. Tu sais, tu reviens d'un jog, mettons, là, tu reviens d'une heure de sport. Là,
t'es-tu bien?
Il n'y a rien qui peut te déranger.
Non, c'est vrai.
Tu sais, mettons, tu sors du gym, t'es dans le trafic. Là, juste l'expérience d'être dans ton char, dans le trafic, est complètement différente.
C'est vrai.
Quand tu viens de faire du sport ou pas.
Ouais.
Genre, quelqu'un qui roule lentement avant toi, tu vas le suivre ben peinard. Là. Ouais.
Tu vas dire, j'ai pas de contrôle, ça va bien.
Tandis que si t'es comme, tu viens de faire ta journée de travail, puis là t'es dans le trafic, tu reviens, puis là t'es un peu en tabarnak parce que t'es pris, puis ça va pas assez vite. Puis quand tu viens de faire du sport, ça fait jamais ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Fait que non, ça. Puis l'autre affaire aussi que je voulais dire par rapport aux commentaires négatifs, pour reprendre les mots de mon ami Jonathan Roy, il dit... Le monde là qui se met à chialer ses réseaux sociaux puis qui t'envoie de la haine ses réseaux sociaux, quand ils vont mourir, il n'y a pas grand monde qui va s'ennuyer. Mais dans le sens, tu sais, le monde qui prenne le temps de t'envoyer de la marde sur les réseaux sociaux pour quelque chose qu'ils ont vu, qui est même pas une représentation de toi. Il faut pas que tu. L'expression est vraiment intense, mais ce que ça veut dire, c'est. On s'en colle.
Yes,
ce monde-là, tu le connais.
C'est vrai, quand tu penses. Mané, nous autres, on commençait à se poser des questions dans mon entourage. Je dis, toi, t'as-tu déjà été parler à quelqu'un sur Internet puis lui envoyer de la merde? Non, jamais.
Exact.
Mmh. Toi, t'as-tu déjà. Non. Puis là, on réalisait que personne n'avait jamais fait
personne
ça.
Personne ici n'a fait ça.
Qui fait ça? Ces affaires-là, si tu perds du temps. Ouais. Dans le fond, c'est que c'était les genres de groupes fan page, Big Brother, puis là, c'est. C'est rien que ça, là, tu sais.
Tu sais, tu vois les 50 personnes qui le font au Québec,
dans le fond. Ils font du bruit, là, tu sais, ils font du bruit, là. Ouais. Là, je voyais, quand j'ai sorti de Big Brother, parce qu'en premier, tu vois pas ça, ces affaires-là, je voyais ma mère qui répondait à tout ce monde-là, puis là, qui chicanait avec eux autres. Non, ma fille, elle est pas comme ça. Mais là, elle voulait bien faire, là, je dis, mêle-toi pas, là. J'ai dit, t'es nourri, ce monde-là. Faut pas que tu nourris ça, tu sais. Faut que t'ignores. Tu les
ignores. T'ignores, puis faut que t'élises le moins possible, tu sais.
Puis là, ma tante, du bord de mon père, qui allait me protéger là-dedans. mon Dieu.
Ouais, puis ça devient d'une lourdeur infinie pour ce monde-là aussi, là, tu sais.
Mais oui, vraiment.
Tu commences à te sentir attaqué. Moi, ma mère a fait la même chose, tu sais. Il a fallu qu'elle parte deux semaines dans le sud après OD parce qu'elle était brûlée, là.
C'est ça, c'est dur mentalement.
Elle était brûlée de lire des commentaires sur son fils, là, tu sais. C'est du stock pareil, là. j'imagine que je sais qu'est-ce qu'on. Parce que là, il va falloir te laisser aller bientôt pour que tu retournes à ton deuxième entraînement. Je sais qu'est-ce qu'on te souhaite dans le futur immédiat, mais les gens qui veulent te suivre, qui veulent aller voir ton j'allais dire ton spectacle, aller voir ton combat au Centre Bell, c'est le temps de plugger tout ce que tu veux plugger, là.
Venez me voir boxer. Le 17 décembre, c'est un beau cadeau de Noël à offrir à vos proches, des beaux billets de boxe. Ça va être une grosse soirée. Mon premier championnat du monde, j'aimerais ça le vivre avec tous les Québécois. Tu sais, qu'on gagne ça ensemble parce que les Québécois me soutiennent vraiment beaucoup depuis les dernières années. Ça va être un grand moment. Fait que vous pouvez aller sur Ticketmaster, il y a encore des bons billets. Ça part assez vite. Ça s'appelle la triple couronne. Il va y avoir 3 combats de championnat du monde ce soir-là. Allez acheter vos billets. On va faire bien du bruit. Puis envoyez-moi beaucoup d'énergie parce que je vais en avoir besoin. Puis je vais tout la prendre.
Très, très cool. Puis le monde te suit personnellement où?
Sur j'ai un Twitter, K Clavel. J'ai aussi mon Instagram, Kim Clavel. Facebook professionnel, Kim Kéké Clavel. Tout le monde m'appelle Kéké. Ça, c'est à cause de mon premier coach. T'sais, dans le fond, Clavel, ça s'écrit avec un C, mais lui, il écrivait toujours avec un K. Je disais, Michel, je dis, c'est un C. Il dit, non, c'est plus beau avec un K. Ça fait Keller, Kim Keller. Puis tout le monde s'est mis à m'appeler Kéké jusqu'à temps que j'aille à l'aéroport parce que c'était mon premier voyage international. J'allais boxer en Tunisie. Puis il avait mis un K pour mon inscription, puis aux douanes, j'ai failli pas passer parce que c'était pas écrit comme sur mon passeport. Mais c'était trop tard, tout le monde m'appelait déjà Kéké à ce moment-là, fait que c'est pour ça qu'on m'appelle Kéké.
Très cool. Merci beaucoup, puis le plus grand des succès.
Ben, merci beaucoup de l'invitation, les gars, puis restez sages, entraînez-vous.
Yeah, tout le temps.
Oui, t'as pas.
C'était du contenu excellent.
Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$?
Ouais, 3$ par mois.
3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir...
Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres.
Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète.
Puis en plus... En plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant, il est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
Abonnez-vous.